Vous écoutez, on lit pour vous.
Les journaux de gratitude, fonctionnent-ils vraiment? Un texte de Florence Dancause, paru le 19 février 2026 dans la presse. Les journaux de gratitude ont eu leur heure de gloire dans les dernières années. Ont-ils eu un impact sur la vie de leurs adeptes? Encouragent-ils réellement à ressentir de la gratitude? La journaliste et psychothérapeute Moya Sarner s'est épanchée en décembre 2025 sur la gratitude dans le Guardian. Elle a décrit le piège de ces journaux où on note les événements, les personnes ou les choses dont on est reconnaissant et qui peuvent parfois ressembler plutôt à une liste à cocher. Si vous essayez de manipuler la gratitude en la traitant comme un atout à accumuler, cela ne pourra jamais être qu'un sentiment agréable et éphémère, a-t-elle évoqué. Comment y arriver? En ressentant réellement la gratitude, a-t-elle écrit. Isabelle Lavallée a eu la même réalisation. Atteinte d'un cancer de stade 4, elle a commencé à écrire trois choses dont elle ressent de l'appréciation chaque soir, il y a 5 ans. « Ça m'a amené une vision plus large », indique-t-elle. « Même dans la situation dans laquelle je vis, ma fille et mes sœurs viennent m'aider. J'ai un médecin et des infirmières qui viennent à domicile. » Elle affirme ressentir énormément de gratitude pour cela. Et rien n'est trop banal lorsqu'elle énumère ce qui la rend reconnaissante. Ça peut juste être l'eau courante, affirme-t-elle. Pour voir les effets positifs de cette pratique, on doit ajouter de l'intention et le sentir, indique-t-elle. Mais est-ce normal que la pratique soit plutôt machinale lorsqu'on commence? Oui, affirme d'emblée la psychologue Isabelle Soucy. C'est normal qu'au début, ce soit plus difficile. On l'écrit, mais en même temps, on essaie de laisser grandir le sentiment à l'intérieur de soi, insiste-t-elle. Des chemins à tracer. Notre cerveau est naturellement porté à identifier les menaces. Il est ainsi moins apte à être en pleine conscience et à célébrer le beau, souligne la psychologue Isabelle Soucy. Plonger dans le sentiment de gratitude est important, puisqu'on prend de nouveaux chemins neuronaux et que ceux-ci vont devenir des réflexes à mesure qu'on les emprunte, décrit-elle. La pratique quotidienne de la gratitude permet de bâtir cette résilience. Les recherches ont noté cet effet positif à long terme. La professeure de psychologie du développement à l'Université Lumière Lyon 2, Rebecca Shankland, s'intéresse particulièrement à la gratitude. Il y a 10 ans, elle a écrit le livre « Les pouvoirs de la gratitude », dont une nouvelle version sera publiée à la fin de 2026. Dans les premières recherches réalisées auprès d'étudiants à l'université, dit-elle, il a été montré que le fait de tenir un journal de gratitude pendant 2 semaines, en écrivant chaque soir, diminuait la présence de symptômes anxieux et dépressifs et améliorait la satisfaction de la vie. Des symptômes physiques peuvent aussi être réduits, maux de tête, maux de ventre et troubles du sommeil. L'ensemble de ces effets perdure 6 mois après la fin de l'intervention, même si on ne pratique le journal que pendant 2 semaines, souligne-t-elle. Tara Tremblay-Nantel a remarqué une amélioration de son sommeil depuis qu'elle note ce dont elle est reconnaissante dans une application. Une pratique qu'elle accomplit depuis 1 an. On a des moments stressants au travail, comme tout le monde, et ça me ramène au bon moment, explique celle qui a une agence de communication. Elle a aussi vu un effet d'engouement. J'ai réalisé l'importance des relations dans ma vie et ça m'a donné une chance d'apprécier mes réalisations, dit-elle. Un acte passif. En 2025, le psychologue et auteur américain Adam Grant a critiqué les bienfaits des journaux de gratitude. Selon lui, la pratique pouvait amener de la passivité. Il a plutôt proposé de tenir un journal de contribution où on réfléchit à ce qu'on a fait de bien pour les autres. Cela permettait d'augmenter notre motivation et le sentiment de faire une différence. La professeure Rebecca Shankland s'est justement demandé si cette pratique pouvait encourager l'inaction. Des études ont mis en évidence que ce n'est pas le cas, met-elle en lumière. Au contraire, répond-elle, la gratitude augmente l'énergie et la vitalité qui permettent de s'engager pour défendre des causes et résoudre les problèmes. Selon la psychologue Isabelle Soucy, la gratitude n'est pas là pour ne jamais aspirer à autre chose, ou pire, pour invalider une souffrance, dit-elle. C'est de reconnaître le beau et la chance qu'on a, bien qu'on vive des moments difficiles. On peut aussi l'appliquer, dit-elle, pour être dans un état de contentement sans être dans une quête perpétuelle de la perfection. Il existe d'autres variantes pour entretenir ce muscle-là, souligne Isabelle Soucy. On peut profiter d'un repas familial pour faire un tour de table ou simplement nommer trois choses dont on est reconnaissant à notre réveil, propose-t-elle. Et pourquoi ne pas faire partager notre gratitude envers des gens? Ça a un effet puissant sur la connexion humaine, indique celle-ci. C'était « Les journaux de gratitude fonctionnent-ils vraiment ?» un texte de Florence Dancause, paru le 19 février 2026 dans La Presse.
Une crise en éducation malgré des dépenses records. Un texte de Zacharie Goudreau, paru le 15 janvier 2026 dans Le Devoir. Le hasard aura voulu que ce soit au lendemain de l'annonce du départ de la vie politique du premier ministre François Legault que l'Institut du Québec, IDQ, dévoile un rapport qui témoigne des investissements records effectués ces dernières années dans le réseau de l'éducation québécois. Ces effets sur la réussite des élèves se font toutefois toujours attendre, constate l'organisation. Elle craint d'ailleurs que le frein appliqué par Québec dans ses dépenses depuis l'an dernier se fasse au détriment de celles-ci. Si le réseau de l'éducation est en crise, ce n'est pas à cause d'un manque d'investissement de Québec, mais plutôt malgré une hausse record de 57 % des dépenses de l'État destinées à ce secteur entre 2018 et 2024, évoque l'IDQ dans son rapport que Le Devoir a pu consulter avant sa publication. Une partie de cette croissance s'explique par l'augmentation de près de 10 % du nombre d'élèves dans les écoles de la province en 6 ans. Elle est aussi le fruit d'une augmentation de 43 % des dépenses par élève par l'intermédiaire du recrutement de nombreux enseignants et d'autres membres du personnel scolaire entre 2018 et 2024. Quand on a creusé les chiffres, on s'est rendu compte que c'est beaucoup du personnel qui est lié au service aux élèves qui a été recruté en grand nombre ces dernières années, évoque en entrevue la présidente directrice générale de l'IDQ, Emma Braham. Le rapport fait ainsi état d'une croissance de 22 % au net du nombre d'enseignants dans les écoles du Québec en 6 ans. Un bond qui a atteint 49 % en ce qui concerne le personnel de soutien scolaire et professionnel. Les écoles du Québec comptent donc aujourd'hui plus de techniciens en éducation spécialisée, d'orthophonistes et de psychologues, entre autres, que lors de l'arrivée au pouvoir de François Legault en octobre 2018. Tous ces employés ont d'ailleurs vu leur salaire augmenter en 2024 au terme de rondes de négociations collectives avec Québec, qui ont pesé lourd sur les finances de l'État. des bienfaits qui se font attendre. Cependant, dans les écoles, les effets concrets de ces investissements sur la réussite scolaire se font attendre, constate l'Institut. Le taux de diplomation stagne depuis plusieurs années et des écarts marqués persistent entre les résultats compilés à cet égard dans les écoles privées et publiques, de même qu'entre les filles et les garçons, souligne Emma Braham. Je pense qu'il y a des questions assez sérieuses à poser. Si on investit autant en éducation et qu'on ne surperforme pas sur certains indicateurs, il faut se demander si c'est correctement investi, si ce sont les bonnes priorités et si les interventions sont efficaces, estime Mme Braham. Le rapport de l'IDQ souligne ainsi l'importance que Québec s'attarde à compiler davantage de données qui lui permettraient de mesurer l'efficacité des investissements faits dans les écoles de la province et de déterminer si chaque dollar additionnel sert véritablement à la réussite des élèves. Car actuellement, il nous manque énormément d'informations pour faire un bon diagnostic à cet égard, affirme Mme Braham. Des gains menacés. Le rapport de l'IDQ évoque d'autre part l'hypothèse qu'il faudra patienter un certain temps avant de voir les investissements faits ces dernières années se traduire par une amélioration mesurable de la performance scolaire. Or, après avoir gonflé le budget de l'éducation ces dernières années, le gouvernement Legault a appliqué en 2024 un gel des dépenses dans ce portefeuille. Une hausse des dépenses limitée à 1,6 % par année est d'ailleurs prévue cette année ainsi qu'en 2027. Un pourcentage qui est non seulement inférieur à l'inflation anticipée, mais aussi à l'augmentation annuelle prévue du salaire des enseignants, qui sera d'au moins 2,5 % jusqu'en 2027. Ça veut dire qu'il va falloir faire des choix ailleurs, parce que les salaires des enseignants, c'est vraiment peu compressible, souligne l'économiste principal et directeur adjoint de l'IDQ, Simon Savard. Il est donc faux de penser que Québec pourra ralentir les dépenses en éducation sans impacter le service aux élèves, complète Mme Braham. M. Savard souligne d'ailleurs qu'à cause du manque de données lui permettant de savoir quelles dépenses il doit prioriser dans le réseau de l'éducation, Québec risque de faire des compressions budgétaires dans les programmes qui fonctionnent ou qui apportent des retombées positives pour les écoles. Les contraintes imposées par le redressement budgétaire risquent ainsi d'affecter la capacité du Québec à atteindre les objectifs ambitieux qu'il s'était fixés pour l'amélioration de l'éducation, conclut le rapport. C'était « Une crise en éducation malgré des dépenses records », un texte de Zacharie Goudreau, paru le 15 janvier 2026 dans Le Devoir.
Et si la vraie menace dans les rues de Montréal était la circulation automobile? Un texte de Marco Fortier, paru le 14 février 2026 dans Le Devoir. La mairesse de Montréal vient de lancer un vaste exercice qui vise à sécuriser les pistes cyclables. Le diagnostic est simple, affirment les experts. Le danger pour les cyclistes, les piétons et les automobilistes vient des voitures et surtout des camions. Il est où le danger pour tous les usagers de la route à Montréal? Il est dans les rues les plus achalandées et surtout aux intersections, explique Jérôme Laviolette, chercheur postdoctoral en mobilité à l'Université McGill. Plus de 2 collisions graves ou mortelles sur 3, 793 sur 1123, à Montréal, sont survenus à des intersections entre les années 2012 et 2020, selon des données colligées par Le Devoir. Les camions lourds représentent la plus grande menace à la sécurité des usagers vulnérables. même s'ils ne comptent que pour 4 % des véhicules en circulation, ils sont impliqués dans 47 % des décès de cyclistes et 32 % des décès de piétons à Montréal entre 2011 et 2019, selon Vélo-Québec. Toutes les collisions ayant mené au décès d'un cycliste à Montréal entre 2012 et 2024 sont survenues dans des voies de circulation sans piste cyclable, a aussi découvert Vélo-Québec. Durant cette période d'une douzaine d'années, personne n'est décédé sur une piste cyclable. Mais les 27 cyclistes qui sont morts dans des collisions se trouvaient sur une chaussée non protégée. Ils roulaient parmi les voitures, les bus et les camions. Le vrai danger sur nos routes actuellement, ce sont les véhicules motorisés, les camions surtout, et les automobiles. Ce sont les interactions entre les véhicules motorisés et les cyclistes ou les piétons qui sont dangereuses, dit le chercheur Jérôme Laviolette. Les pistes cyclables séparées de la chaussée, comme le réseau Express Vélo, REV, de la rue Saint-Denis, augmente le sentiment de sécurité de tous les usagers de la route, souligne l'expert. Chacun à sa place. Les automobilistes n'ont pas à côtoyer des maudits bicycles et les maudits cyclistes se sentent protégés par la bande de béton qui les sépare de la circulation motorisée. Des pistes qui débordent. Est-ce que les pistes cyclables sont parfaites? Non. Et l'audit des pistes, s'il est bien fait, peut permettre d'établir les lacunes dans ces infrastructures, dit Jérôme Laviolette. Et dans bien des cas, les correctifs à apporter risquent d'être de donner davantage d'espace au vélo, souligne le chercheur. Certaines pistes cyclables sont si populaires, surtout en été, qu'elles deviennent congestionnées aux heures de pointe. Signe de cet engouement, 14,5 millions de passages à Bixi ont été enregistrés en 2025, un record. L'expert en mobilité se réjouit que la piste de la rue Rachel, où sont signalés 800 000 passages par année, fasse partie de l'analyse approfondie menée par la ville. Cette piste est encombrée lors de la saison chaude et les automobilistes redoutent de tourner à gauche ou à droite pour s'engager dans les petites rues perpendiculaires. Les intersections sont propices aux collisions entre voitures et vélos. La solution est simple, souligne Jean-François Rault, président-directeur général de Vélo-Québec. Il faut envisager l'aménagement de deux pistes cyclables unidirectionnelles sur la rue Rachel ou sur une rue parallèle, une pour chaque direction, et installer des feux de circulation protégés pour éviter les collisions entre automobilistes et cyclistes aux intersections. Le chercheur Jérôme Laviolette se demande aussi pourquoi la piste cyclable du boulevard de Maisonneuve, construite il y a longtemps sur le même modèle que celle de la rue Rachel, est affligée des mêmes enjeux de sécurité, ne fait pas partie de l'audit commandé par la mairesse. Des trous dans l'analyse. Des observateurs s'étonnent d'autres incongruités dans l'analyse de la sécurité lancée par la nouvelle administration montréalaise. Les pistes cyclables du district central, un secteur commercial et industriel du quartier Hanzik, sont ainsi considérées comme dangereuses en raison de la présence de camions de livraison. Qu'est-ce qui est dangereux? Les pistes cyclables ou les camions? Est-ce que l'absence de pistes cyclables serait plus sécuritaire pour les cyclistes que la présence de pistes cyclables? Dit Jérôme Laviolette. À moins que la ville considère que les milliers de travailleurs du coin devraient éviter de se rendre au boulot à vélo. S'ils viennent tous en auto, la congestion va prendre de l'ampleur et il va manquer de cases de stationnement. Chris McRae, conseiller municipal de Projet Montréal, a souligné d'autres omissions dans la stratégie de sécurité routière de la mairesse. Ainsi, l'avenue du Parc, où 8 personnes, 4 cyclistes et 4 piétons, ont été tuées au cours des 12 dernières années, ne fait l'objet d'aucun plan de sécurisation ou de projet de piste cyclable. L'axe Vio, plus à l'est, avait été ciblé comme un possible lien cyclable nord-sud, mais il fait partie des projets réévalués par la nouvelle administration. Des initiatives phares visant à faire davantage de place aux bus, aux vélos et aux piétons sur le boulevard Henri-Bourassa et les rues Hochelaga et Saint-Urbain sont aussi remises en question. Les grandes villes qui ont réduit la congestion routière ont pourtant toutes diminué la place de l'automobile, souligne Jérôme Laviolette. Il rappelle que, dans les cités à forte densité de population, comme Montréal, où l'espace public est extrêmement limité, l'automobile est le mode de transport le moins efficient. Le calcul est simple. Un bus transporte 47 fois plus de passagers qu'une voiture solo. Et les pistes cyclables peuvent déplacer beaucoup de monde en accaparant pas mal moins d'espace que la circulation motorisée. C'était « Et si la vraie menace dans les rues de Montréal était la circulation automobile? » Un texte de Marco Fortier, paru le 14 février 2026 dans Le Devoir.
Une enquête se penche sur le cellulaire à la maison et l'école à trois vitesses. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 2 février 2026 dans Le Devoir. Les enfants compensent-ils l'interdiction du cellulaire à l'école en consultant davantage celui-ci une fois de retour au bercail? C'est l'une des questions auxquelles la docteure Mélissa Généreux et divers organismes tenteront de répondre dans les prochaines semaines, dans le cadre d'un coup de sonde de grande envergure qui se penchera également sur les effets de l'école à trois vitesses sur le bien-être des jeunes. Dès le 2 février 2026, des parents d'élèves au primaire et au secondaire du Québec ont été invités à prendre part à la troisième édition de l'Enquête nationale sur le bien-être des familles québécoises, qui compte 37 questions. La collecte de réponses a ensuite pris fin le 13 février 2026 et l'analyse de ces résultats sera connue à la mi-mars 2026. Pilotée notamment par la Fédération des comités de parents du Québec, FCPQ, l'Association des comités de parents anglophones et Mme Généreux, qui enseigne à la Faculté de médecine et des sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke, cette démarche vise notamment à mesurer les effets du temps d'écran des jeunes sur leur qualité de vie. En 2025, le coup de sonde auquel avaient répondu plus de 11 000 parents a permis de documenter la croissance rapide de l'usage d'Internet et des réseaux sociaux par les jeunes dès la fin du primaire et tout au long de leur parcours au secondaire. Ce sont d'ailleurs près du quart des enfants, selon les parents sondés, qui faisaient alors un usage des écrans, à risque ou problématique pour leur santé psychologique, leur motivation à l'école et leur vie sociale, entre autres. Les parents, leur préoccupation numéro un, autant au primaire qu'au secondaire, c'était le temps d'écran de leurs enfants, rappelle Mélissa Généreux en entrevue au Devoir. Les deux premières éditions de cette enquête ont d'ailleurs contribué à alimenter une réflexion de l'État qui a culminé l'an dernier avec sa décision d'interdire l'usage, par les élèves, d'appareils mobiles sur le terrain et à l'intérieur des écoles de la province. Avant cela, cette interdiction ne s'appliquait qu'aux salles de classe, depuis janvier 2024. En règle générale, l'interdiction du cellulaire à l'école, c'est un franc succès, remarque d'ailleurs la présidente de la FCPQ, Mélanie Laviolette. Mais comment cette mesure a-t-elle changé les habitudes des élèves lorsqu'ils ont de nouveaux accès à leurs appareils mobiles à la fin des cours, le soir et la fin de semaine? Ce que la littérature évoque comme possibilité, c'est qu'il peut y avoir un déplacement de l'usage des écrans, souligne Mme Généreux. Donc, les jeunes disent « je n'ai pas eu ma dose, si on veut, dans la journée, donc je m'attends à avoir plus de temps d'écran ce soir ou en fin de semaine pour compenser », ajoute-t-elle. C'est un des effets possibles qu'on veut suivre avec cette enquête, explique l'experte. Ce coup de sonde permettra également d'observer comment les parents prennent des mesures pour limiter le temps d'écran de leurs enfants à la maison, en réaction à la décision de Québec d'interdire les cellulaires à l'école. On pense et on espère que ça va introduire de saines habitudes d'utilisation à la maison aussi, mais ça reste quand même une préoccupation chez nos parents actuellement. Nombre d'entre eux peinant à gérer le temps d'écran de leurs enfants, poursuit Mme Laviolette. École à trois vitesses. La troisième édition de cette enquête sera par ailleurs l'occasion, pour Mélissa Généreux, de se pencher sur le niveau de bien-être des élèves qui suivent un parcours classique dans une école publique par rapport à ceux qui sont inscrits dans un programme pédagogique particulier ou au sein d'une école privée. Le but, ce n'est pas de critiquer ou quoi que ce soit, mais plus d'avoir, encore une fois, l'heure juste d'avoir les faits quant aux répercussions de l'école à trois vitesses sur les jeunes Québécois, relève l'experte. La surmédicalisation des élèves sera d'autre part une autre nouveauté de ce coup de sonde, cette année, celle-ci représentant une problématique croissante dans un contexte où les écoles peinent à disposer du personnel professionnel nécessaire pour répondre à un nombre croissant d'élèves à besoins particuliers, constate Mélanie Laviolette. Un jeune qui est bien pris en charge a peut-être besoin de moins de médication que quelqu'un qu'on essaie juste de contrôler dans un environnement qui n'est pas adapté pour lui, avance la présidente de la FCPQ, impatiente de recueillir les constats des parents à cet égard. Elle espère d'ailleurs que le gouvernement québécois, en cette année électorale, étudiera avec attention les résultats de cette enquête, car il y a vraiment une mine d'or d'informations là-dedans pour quelqu'un qui veut vraiment s'assurer de pouvoir aider sa population. C'était « Une enquête se penche sur le cellulaire à la maison et l'école à trois vitesses », un texte de Zacharie Goudreau paru le 2 février 2026 dans Le Devoir.